Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Après des décennies de calme, la tempête est de retour sur les océans. En mer Rouge, les milices houthis ont lancé des douzaines d'attaques sur des bâtiments avec des drones et des missiles, interrompant 90% de l'activité des conteneurs dans le canal de Suez. La mer Noire est infestée de mines. L'Ukraine espère cette année éjecter la marine russe de Crimée, sa base depuis Catherine II. Les mers Baltiques et du Nord font face à une guerre de l'ombre sur les pipelines et les sabotages de câbles. Quant à l'Asie, elle est le théâtre de la plus grande construction de puissance navale depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors que la Chine exerce une énorme pression sur Taïwan dans sa volonté d'unification et les États-Unis cherchent à empêcher une invasion chinoise. Autant d'événements qui ne sont pas une coïncidence, mais témoignent bien du profond changement qui s'opère sur la planète océan. La rivalité entre superpuissances et le pourrissement des règles et normes globales se traduisent par une intensification des tensions géopolitiques. Pour la première fois depuis la guerre froide, les océans sont aujourd'hui une zone contestée. La rivalité entre forces navales fait son retour. Regard avec nos invités en ligne depuis Taipei, Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales de l'Institut Montaigne, spécialiste de la sécurité économique et des questions stratégiques en Asie. Bonjour.
Bonjour.
En studio, l'amiral Marc-Antoine de Saint-Germain, en charge de la transformation numérique de la marine et ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Bonjour.
Bonjour.
Et Cyril Coutancet, directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la marine, auteur de La mer, une infographie au CNRS Édition. Bonjour.
Bonjour.
Rapidement brossé, le panorama, la marine américaine assurait jusqu'à présent pour ainsi dire seule la sécurité dans le monde avec 280 bâtiments de guerre et 340 000 marins. À ce jour, les États-Unis sont les seuls à déployer en permanence des groupes aéronavals sur toutes les mers du monde. L'Amérique et ses alliés possèdent toujours les sous-marins les plus avancés. Ils sont liés par des alliances navales et des partenariats inégalés par la Russie et la Chine. Mais leur domination navale s'étiole. Certains experts estiment que la marine chinoise est aujourd'hui la plus importante, on va en parler. Les marines européennes sont l'ombre d'elles-mêmes après avoir rangé ou jeté 28% de leurs sous-marins et 32% de leurs frégates et destroyers entre 1999 et 2018. Si les océans sont au cœur de l'ordre international, ils sont aussi l'horizon où se jouent les défis lancés à cet ordre. Amiral de Saint-Germain.
C'est exactement ce que vous venez de décrire qui est en train de se passer, en fait qui se passe depuis au moins une dizaine d'années. Et pourquoi ça? Parce que finalement, les mers et océans sont ce qu'on appelle, font partie des espaces communs. Et c'est là que, depuis toujours, les rapports de force s'établissent. Il n'y a pas de frontières. On peut côtoyer n'importe qui dispose d'une marine. Et après une période de ce que j'appellerais une pause stratégique en mer de 30 ans, c'est-à-dire la fin de la guerre froide, où les marines militaires ont progressivement disparu des océans et des mers, on voit depuis une dizaine d'années, parce que le marin que je suis peut en témoigner, une réappropriation des mers et océans par les marines militaires. Et donc, qui exprime, en fait, qui est un moyen pour des pays qui revendiquent une place dans l'ordre mondial établi, qui, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, contestent l'ordre tel qu'il a été établi post-guerre, décident de se réaffirmer par la mer.
Et la réaffirmation, on l'abordera, mais là, je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est quelque chose de compliqué. Je veux dire, remettre cette machine marine, maritime en route, c'est un lourd projet.
C'est un projet de longue haleine. Et vous m'avez invité comme ancien commandant du porte-avions, je peux en témoigner. La marine française opère un porte-avions depuis 90 ans. Et si aujourd'hui elle opère le Charles de Gaulle de la façon la plus efficace possible, c'est bien parce qu'elle n'a jamais renoncé à cette capacité, qui est une capacité. Parmi d'autres, je prendrai l'autre domaine qui est celui de la mise en œuvre des sous-marins, qui est d'une complexité en termes de construction, mais en termes de mise en œuvre par les marins, de très haut niveau, et seuls quelques marines aujourd'hui le maîtrisent. D'autres pays essaient de remonter dans ce domaine-là, en particulier la Chine, qui a été, il y a très longtemps, une nation maritime, avait renoncé à cette dimension maritime, et y revient notamment par, en construisant une marine militaire de premier ordre.
Merci Amiral de m'avoir fait la transition et je me tourne vers Mathieu Duchâtel pour évoquer la puissance de la marine chinoise avec la Chine qui dispose de 2 porte-avions, le troisième, le Fujian, qui est en construction et qui est sur le point d'être mis à l'eau. Un porte-avions conventionnel à catapulte construit par la Chine. Alors, le nom de Fujian, c'est le nom de la province qui comprend Taïwan. Évidemment, ce Fujian, il inquiète Taipei. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Mathieu Duchâtel, de ce porte-avions ?
Alors, il y a effectivement un lien entre le programme de porte-avions chinois et la question de Taïwan. Quand l'amiral Yu Huaqing visite le Kitty Hawk au début des années 90, il l'écrit dans ses mémoires. Il voit d'abord les porte-avions comme une capacité qui permettrait de porter une attaque sur la côte orientale de Taïwan, donc d'ouvrir un deuxième front sur la côte du Pacifique de Taïwan. La Chine acquiert à l'Ukraine, de la part de l'Ukraine, le porte-avions Varyag, qu'elle remet en service progressivement, se lance dans un programme de construction de porte-avions avec l'ambition d'abord d'insérer des catapultes électromagnétiques sur ces porte-avions, ce qu'elle a réussi à faire avec le porte-avions Fujian qui va être bientôt mis en service. C'est très important, les catapultes électromagnétiques, parce que ça permet à la flotte embarquée de ne pas faire seulement du combat aérien, mais d'être capable de faire du bombardement terrestre ou d'emporter des armes anti-navires. Pour l'instant, les 2 porte-avions en service dans la marine chinoise ne sont capables, avec leur flotte embarquée de J-15, que de faire du combat entre chasseurs. Donc on a là un projet de longue haleine de la part de la marine chinoise. On a très certainement l'ambition d'arriver à un moment à une propulsion nucléaire et non plus seulement à une propulsion conventionnelle. Mais en même temps, quand on lit le programme de porte-avions chinois à la question de Taïwan, on peut penser que ce n'est pas le système le plus décisif et toutes les vulnérabilités des grands bâtiments de guerre aux missiles anti-navires, dont on parle beaucoup dans le contexte de la mer Noire, s'appliquent aussi aux porte-avions chinois. Donc, la marine chinoise et Taïwan, ce n'est pas seulement le programme de porte-avions, loin de là.
Non, bien sûr, mais l'actualité fait que effectivement, et on va parler du Charles de Gaulle, qui après 8 mois d'arrêt pour un entretien qu'on appelle intermédiaire, alors vous nous expliquerez tout cela, qui a tout de même privé la marine française de son navire principal. Le Charles de Gaulle est donc de retour à la mer depuis quelques semaines. La question du Fujian, j'en reviens à ce porte-avions chinois qui est sur le point d'être lancé avec des catapultes électromagnétiques. C'est une technologie de pointe qui donne pas mal de fil à retordre, en particulier aux Américains, Cyril Coutancet.
Oui, enfin, je crois surtout, effectivement, ce qui a été souligné, c'est la durée pour bâtir à la fois des porte-avions, un groupe aéronaval, etc. Parce que, en fait, la marine chinoise, les Chinois se sont intéressés aux porte-avions depuis des années et des années. Hein. Ils ont pris conscience qu'ils avaient besoin, ne serait-ce que d'une couverture aérienne, au moment où il y a eu cet affrontement entre Vietnam et Chine en 1988 au Paracel. Et là, il y a cette décision qui est prise de se doter d'un porte-avions, de lancer un programme. Sauf que ça a été extrêmement compliqué. On est en 1988, le porte-avions ukrainien, donc avec les plans surtout, est acquis en 2002. Le premier porte-avions chinois à tremplin naît en 2012. Donc là, on en est au troisième. Donc ça montre toute la difficulté, en fait, de se construire une compétence dans ce domaine-là. Et puis, il y a une autre compétence. Avoir un porte-avions, c'est une chose. Mais après, il faut former les hommes, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis surtout, un porte-avions, ça n'est rien sans le groupe aéronaval qui est autour. C'est-à-dire qu'un porte-avions, c'est un navire. Mais autour, il faut des frégates, des sous-marins, etc. Et il faut pouvoir coordonner et faire fonctionner ensemble tout cet ensemble. Et ça, c'est une compétence qui s'acquiert dans la durée. C'est pas aussi simple que ça. Et donc,
Est-ce que vous voulez dire que les Chinois ne l'ont pas complètement, cette compétence?
Ils l'auront un jour ou l'autre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter simplement au fait d'avoir, là effectivement, ils sont à trois porte-avions, ils vont être à trois porte-avions, ils visent 6 porte-avions à terme.
Mais les Américains en ont 11.
Voilà, mais surtout, la compétence des États-Unis comme la compétence française, c'est cette capacité à former les hommes aussi et à former un groupe aéronaval et donc à faire fonctionner ensemble cet ensemble. Et ça, c'est, je pense que c'est l'élément décisif sur lequel les Chinois ont encore pas mal de travail à faire.
Amiral de Saint-Germain, vous souhaitez ajouter quelque chose et...
Il y a un exemple tout à fait édifiant en Europe, c'est l'exemple britannique. Les Britanniques sont ceux qui ont construit le premier porte-avions au début du XXe siècle. Ils ont donc une expérience qui était au moins aussi importante que la nôtre. Ils ont décidé de renoncer à cette capacité dans les années 90. Ils reconstruisent deux porte-aéronefs et vous voyez les difficultés qu'ils ont aujourd'hui pour remettre en œuvre d'un point de vue opérationnel, donc de l'efficacité, un outil comme celui-là. C'est effectivement à la fois de la capacité de construction, on voit bien qu'il y a des problèmes techniques aujourd'hui, c'est vu la complexification générale des outils, c'est toujours difficile, mais en plus, on rajoute sa capacité de maîtrise des compétences pour mettre en œuvre un bateau comme ça, avoir les avions qui s'intègrent naturellement dans le bateau, tout ça, ça ne s'apprend pas comme ça. Et donc la Chine est en train d'acquérir ça, la Chine est en train d'avoir des outils individuellement très performant, la capacité à agréger l'ensemble, ce qui s'appelle le groupe aéronaval, c'est un autre step à franchir dans cette capacité, in fine, à avoir un groupe efficace.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, on reviendra bien sûr sur la stratégie chinoise avec vous, Mathieu Duchâtel, pour comprendre ce qu'il en est vraiment. J'aimerais, avec vous, Marc-Antoine de Saint-Germain, qu'on reparle à la fois du Charles de Gaulle, donc remis à l'eau après toute une période de rénovation, et puis ce projet d'un successeur au Charles de Gaulle. C'est le projet du gouvernement qui a lancé le chantier d'un porte-avions nouvelle génération à propulsion nucléaire, mise en service à l'horizon 2038, début de construction en 2025, un bâtiment très coûteux, 10 milliards d'euros. Alors, le ministre de la Défense estimait récemment que renoncer au porte-avions, c'est assurer un déclassement durable. C'est ce qui motive la France dans le maintien de projets de porte-avions.
Je crois que le porte-avions, c'est d'abord un outil militaire. Et donc, et je vais revenir sur les autres dimensions, notamment politiques et géostratégiques, et une stature internationale correspondant à une ambition nationale. C'est-à-dire que les porte-avions, comme d'autres outils, comme une force de dissuasion, correspondent à ce que notre pays considère qu'il doit faire parce qu'il n'a pas le choix. Et notre pays est un pays monde. Nous avons des ressortissants sur tous les mers et océans, d'une part. Donc nous sommes un pays particulier, d'une part. Son histoire, d'autre part, l'après-guerre, les grands choix du général de Gaulle qui ont fait que aujourd'hui la marine reste profondément structuré sur des grands choix faits post-guerre, notamment sur la partie porte-avions. Donc c'est d'abord un choix, et je vais revenir sur l'outil militaire, parce que les porte-avions, en fait, ce qui est toujours un peu étonnant, c'est qu'on sort d'une période où globalement, il y avait plus vraiment d'opposition en mer. Or, le porte-avions, c'est d'abord, comme l'a dit Mathieu Duchâtel, un outil pour agir en mer, sécurité des approvisionnements, des routes maritimes, protection des convois. Les deux derniers conflits mondiaux nous ont rappelé que la guerre navale, la guerre des convois, était une réalité. Reviendra-t-elle? On ne sait pas. En tout cas, c'est d'abord pour ça qu'on a les porte-avions. Capacité ensuite à pouvoir, et ça, c'est plutôt la période récente qui nous l'a appris, à utiliser ce qu'on appelle une base aérienne flottante qui peut se positionner partout dans le monde et qui peut agir à terre. Mais ça n'a été qu'un emploi, j'allais dire, secondaire dans la philosophie d'emploi des porte-avions historiques. Nous revenons dans une période où nous sommes convaincu, même si l'histoire est à plat, qui ne se repasse pas deux fois, que globalement les rapports de force en mer reviendront par une capacité à maîtriser ce qu'on appelle des espaces aéromaritimes. Et ça, l'outil porte-avions, comme d'autres espaces, on pourrait parler aussi des sous-marins, parce que c'est en fonction des zones, c'est aussi les sous-marins qui te permettent de le faire, notamment pour la mer de Chine méridionale. Intéressant de savoir pourquoi AUKUS, pourquoi les Australiens viennent sur des sous-marins nucléaires. C'est aussi un outil de contrôle des espaces aéromaritimes. Mais en tout cas, le porte-avions vous permet très clairement, d'un point de vue militaire, de maîtriser et d'agir en mer et à terre. C'est d'abord ça. Ensuite, c'est effectivement une vraie capacité à peser dans l'ordre du monde, notamment parce que Charles de Gaulle ne voudra pas échapper qu'il embarque l'arme nucléaire. Il fait partie de la dissuasion nucléaire dans le dispositif français. Donc il a une dimension qui a un panel d'emplois qui est très très large, militaire, politique, géopolitique. C'est un dernier aspect qui me paraît aussi important, c'est un agrégateur de moyens. J'ai navigué de nombreuses années sur porte-avions, je n'ai jamais navigué sans l'accompagnement de frégates européennes, américaines, australiennes, canadiennes. Pour les marins, pour les marines qui n'ont pas de porte-avions, le porte-avions américain, britannique, français, mais il y a aussi les Italiens, les Espagnols, sont des formidables capacités pour pouvoir en coalition agir en mer. Et donc je n'ai fait que mener des missions en coalition, qui était une vraie illustration de ce que les Européens peuvent faire ensemble, notamment. Donc c'est tout ça, le porte-avions.
Alors on reviendra, mais je crois qu'on a perdu la ligne avec Mathieu Duchâtel, donc on va rester entre nous dans le studio. Il y a bon nombre de détracteurs des porte-avions. Cyril Coutançais a commencé par cet argument. Est-ce que le porte-avions est aujourd'hui vraiment adapté à la guerre de demain? Et est-ce qu'on a besoin de grands moyens pour exercer de l'influence en mer?
Alors, je crois que c'était souligné par l'amiral de Saint-Germain. Le porte-avions, d'abord, ça reflète l'ambition d'une nation. Et en fait, ça dit la vision du monde que porte une nation. Et la France, à ce titre-là, effectivement, a des espaces et des territoires ultramarins. Mais au-delà de ça, le porte-avions, c'est une manière de montrer l'ambition française aussi. Et puis, c'est un agrégateur de coalition. Mmh. C'est-à-dire que ça structure aussi, ça aide à embarquer des alliés européens sur des tas de choses. Le deuxième point qui est important dans le porte-avions aussi, je trouve, on l'a vu avec la crise des Houthis en mer Rouge, au début de la guerre entre Israël et le Hamas. Que font les Américains? Ils positionnent immédiatement deux porte-avions.
Là, en l'occurrence, le Gerald Ford et le Eisenhower.
Voilà. Et ça, c'est un signal qui est de dire on est là, on est présent. Et donc, à d'autres acteurs régionaux, de dire on est en capacité de réagir. C'est un signal qui est très fort. Oui. Mais il y a un autre point. Alors, sur le coût, effectivement, d'abord, il faut avoir en tête qu'un porte-avions, on le construit et il est en service pour de très nombreuses années. Donc ce coût, par exemple, de 10 milliards d'euros, il faut l'envisager sur 40 ans, etc. Donc c'est quand même assez lissé par rapport à d'autres investissements. Et d'autre part, je pense qu'il y a un point sur lequel il faut insister, c'est la bascule dans laquelle on est. C'est-à-dire que, effectivement, sur la période de la mondialisation, un porte-avions pouvait apparaître, dans certains esprits, un peu surdimensionné en termes de moyens financiers par rapport à des menaces qui étaient asymétriques. Mais aujourd'hui, on revient à un défi en mer qui va nécessiter ce type d'outils. Parce qu'on va être confronté à des menaces qui ne seront plus asymétriques, mais qui seront exactement de même niveau. Et ensuite, à des engagements qui ne seront plus choisis comme on le faisait pendant la période de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on choisissait d'intervenir un peu à notre main dans telle et telle région du monde, mais des engagements qui seront subis. Et pour ça, il faut avoir des outils qui soient de bon niveau et bien dimensionnés. Donc un porte-avions, c'est absolument essentiel. Et puis, ce n'est pas le porte-avions de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions majeures, ça l'amiral pourra vous en parler bien mieux que moi, mais avec le porte-avions de nouvelle génération, c'est des drones embarqués, c'est des données numériques, c'est du traitement, c'est de l'intelligence artificielle à terme. Donc c'est, oui, extérieurement le porte-avions est le même, mais en fait tout change à l'intérieur, c'est pas du tout le même enjeu.
Amiral Saint-Germain, vous souhaitez rajouter quelque chose? Je redémarrerai la deuxième partie de l'émission avec Mathieu Duchâtel et on partira en Asie.
Je crois que ce qui vient d'être dit est très important. C'est-à-dire que la coque reste une coque de porte-avions. Globalement, vous aurez un porte-avions de nouvelle génération qui sera globalement la même forme parce que l'architecture navale fait que c'est la forme aboutie à ce qu'on a. Ce qui est très important, en fait, c'est les systèmes. C'est un système de systèmes. C'est-à-dire que dans un monde qui est en train de se numériser, dans lequel, en fait, d'ailleurs, la capacité aujourd'hui à se diluer en mer, même à la surface du globe, sera de plus en plus compliquée. Ce n'est pas pour autant que le porte-avions ne sera pas en mesure de pouvoir justement utiliser cette information pour se placer au bon endroit et augmenter en fait ses capacités grâce à l'agrégation d'informations qui jusqu'à présent n'étaient pas capables d'agréger et que demain il pourra agréger grâce aux satellites, grâce aux sous-marins à l'autre bout du monde, grâce à la connectivité générale qu'on est en train de mettre en place, qu'on a dans nos poches aujourd'hui et qu'on a en fait aussi dans tous ces milieux-là. Et donc en fait, on va avoir un outil qui sera fondamentalement différent basé sur des capacités assez classiques, des avions, mais des drones, donc une capacité avec une hybridité de moyens bien plus importante, mais surtout un système de systèmes qui ira bien au-delà que simplement la coque du porte-avions dont on parle aujourd'hui.
Amiral de Saint-Germain, on vous retrouve avec Cyril Coutançais et Mathieu Duchâtel après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la rivalité entre forces navales. Nous retrouvons nos invités en ligne depuis Taipei, Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales de l'Institut Montaigne, spécialiste de la sécurité économique et des questions stratégiques en Asie. En studio, l'amiral Marc-Antoine de Saint-Germain, en charge de la transformation numérique de la marine et ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Et Cyril Coutançais, directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la marine. Mathieu Duchâtel, qu'est-ce que l'on peut dire de la... Alors, on a parlé dans la première partie de l'émission du troisième porte-avions que les Chinois sont sur le point de mettre à l'eau. Qu'est-ce que l'on peut dire des priorités de développement de la marine chinoise? Le Parti communiste chinois cherche depuis un certain nombre d'années à créer une conscience maritime en Chine. Cela constitue une révolution?
Alors bien sûr, dans le développement de la puissance navale chinoise, il y a des échos qui nous viennent de la dynastie Ming et de la grande puissance navale que la Chine a construite à l'époque et que le Parti communiste peut aujourd'hui invoquer. Quand vous regardez les programmes de développement de la marine chinoise aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs chantiers qui méritent une certaine attention. Évidemment, cette marine a changé de format. Elle est maintenant en nombre la marine et en tonnage la marine la plus importante du monde. Mais elle n'en a pas moins des chantiers pour mettre fin à certaines vulnérabilités. Et je crois que le plus important, le plus stratégique, c'est celui de la composante sous-marine de la dissuasion nucléaire chinoise. La Chine a aujourd'hui 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont on dit encore qu'ils sont trop bruyants. Alors on s'appuie beaucoup sur les sources américaines ouverte pour se faire une opinion sur la capacité de ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins chinois. Mais on sait aussi que la Chine est en phase d'amorçage de construction d'une nouvelle génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et que pour toute perspective de conflit en Asie, la question de l'équilibre des forces nucléaires, à l'heure où la Chine est en train de changer de format pour l'ensemble de ses forces nucléaires, est absolument crucial. Et d'ailleurs, dans le cas de la Chine, puisqu'on a beaucoup parlé de porte-avions, il y a eu un débat ces 10 dernières années sur l'emploi du porte-avions dans une stratégie de bastion à la soviétique qui verrait le porte-avions chinois finalement donner en mer de Chine du Sud une couverture aérienne aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour éviter qu'ils soient détectés par différents systèmes, que ce soit des sous-marins nucléaires d'attaque, des composantes de surveillance aérienne. Il y a là un vrai enjeu stratégique pour la Chine qui n'est pas réglé aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un deuxième enjeu stratégique là qui est plutôt d'emploi de la marine, qui est celui de l'emploi de la marine au-delà de la première chaîne d'îles, donc des questions territoriales, de mer de Chine du Sud, de Taïwan, de mer de Chine orientale. La Chine est dans le golfe d'Aden depuis une vingtaine d'années maintenant, pour faire de l'antipiraterie. Elle a une base à Djibouti. Elle a beaucoup discuté, débattu ces 10 dernières années de l'utilisation de la marine dans des opérations d'évacuation de ressortissants, de soutien à ses intérêts à l'étranger, disons loin des côtes chinoises. Et on a malgré tout une certaine timidité dans l'emploi de sa marine pour ce type d'opération aujourd'hui.
Alors, commentaire ici en studio, amiral de Saint-Germain.
Je confirme, c'est exactement ce que j'ai observé. Il se trouve qu'en 2019, donc tous les aspects que Mathieu Duchâtel a décrits, je les confirme de visu sur le terrain. En 2019, il se trouve qu'on a fait un gros déploiement. Comme moi, j'étais commandant du porte-avions. Donc, le groupe aéronaval s'est déployé jusqu'à Singapour et avait visé notamment le Shangri-La Dialogue, où Florence Parly, alors ministre des Armées, était intervenue. Donc, on est allé jusqu'à Singapour. On était même allé au-delà de Singapour, donc en mer de Chine méridionale. On n'était pas rentré dans la zone des 9 traits. Des Paracels et Spratleys. Ce que Mathieu Duchâtel décrit, c'est exactement ce que j'ai pu voir dans le déploiement. C'est-à-dire que globalement, vous avez des Chinois présents dans le golfe d'Aden et qui sont toujours là pour la piraterie, qui continuent d'ailleurs à escorter leur navire dans ce qu'on appelle l'IRTC dans le golfe d'Aden. Vous avez Djibouti, la base qui se développe. Pour autant, La timidité dont M. Duchâtel a parlé, je l'ai bien vu, parce que finalement, nous avons croisé assez peu. Pourtant, les Chinois savaient que le porte-avions se déployait. On a croisé, en fait, très peu de Chinois, hormis les zones qui ont été mentionnées. Ce qui montre qu'aujourd'hui, effectivement, c'est bien une marine en devenir, en tout cas océanique en devenir. Ça reste, il me semble, effectivement, alors ça, moi, ce que je vous dis là date il y a 3 ans, donc les choses ont évolué depuis, mais une marine qui se développe d'abord pour bastion, et je crois qu'effectivement les enjeux de mer de Chine méridionale sont majeurs, la protection de la mer de Chine méridionale, parce que la mer de Chine méridionale est une zone de petits fonds, donc ce que dit Mathieu Duchâtel sur le déploiement notamment des SNLE qui viennent de l'île de Hainan, c'est majeur. C'est pour ça que Taïwan est un pivot majeur dans le rapport de force avec les Américains, parce que Taïwan est l'accès au grand fond. Et donc la dilution des sous-marins nucléaires sans engin chinois. Donc il y a un vrai enjeu stratégique sur Taïwan qui dépasse celui des semi-conducteurs, celui de la seule Chine, celui de... Donc c'est bien la maîtrise du Pacifique dont on parle entre les deux grandes nations riveraines. Et les porte-avions rentrent effectivement là-dedans. Mais je crois qu'effectivement cette notion de... Il ne faut pas réduire, hein, mais je veux dire, aujourd'hui à ce stade-là, cette grande marine océanique qu'on continue à voir et qui se réaffirme du côté des États-Unis, elle n'est pas encore présente du côté chinois.
Cyril Coutançais.
Ouais, c'est effectivement, je soulignerai cette affaire de SNLE, parce que SNLE, pour que les auditeurs comprennent bien, donc qui porte la dissuasion nucléaire, le seul moment, en tout cas, où on peut les pister de façon, entre guillemets, relativement facile, c'est au moment où ils quittent leur port-base, on va dire. Et donc, la difficulté pour les Chinois, c'est qu'effectivement, au sortir de la base d'Annam, on a des fonds qui sont pas très profonds, et donc c'est plus commode, en tout cas, de suivre ensuite leurs traces. Et quand on voit effectivement les déploiements des porte-avions chinois, ils servent essentiellement à 2 choses. Ils servent pour accompagner la sortie des SNLE. Hein, les déploiements qui ont eu lieu, ça a été essentiellement ça. Et puis, assurer aussi la protection des îlots de mer de Chine méridionale. Parce que, en fait, un porte-avions, il peut avoir des emplois complètement différents. Et on est plutôt dans un emploi à la russe, finalement. Le porte-avions russe est aussi employé de la même manière, où on peut avoir des emplois qui vont être dignes d'une marine océanique, hein, à la manière des États-Unis, à la manière française. C'est aussi un porte-avions et une manière de signaler les zones d'intérêt pour un pays. Par exemple, pour la France, c'est intéressant de montrer qu'il y a très très longtemps, hein, mais du temps du général de Gaulle par exemple ou autre, les porte-avions étaient plutôt en Atlantique. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que le porte-avions Charles de Gaulle est en Méditerranée et Océan Indien. Donc ça montre bien l'attention particulière qu'a un pays pour telle et telle zone et de montrer que telle ou telle zone est importante pour lui.
Alors, oui, Amiral Saint-Germain. Oui,
je rebondis parce que il me paraît que c'est fondamental ce que vient de dire Cyril Coutançais. Et la question des catapultes sur le troisième porte-avions vient peut-être signifier effectivement que l'emploi du porte-avions à la chinoise, qui est décrit par Cyril Coutançais comme plutôt mode russe, pourrait basculer dans un emploi d'emploi tel que nous l'avons, tel que les Américains l'ont, c'est-à-dire cette capacité de ce qu'on appelle de projection de puissance. Et en fait, techniquement, la catapulte, c'est d'avoir des avions qui vous permettent d'aller très très loin, donc de vous projeter très loin. Là où lorsque vous avez des portes, ce qu'on appelle des portes à aéronef, pour faire le distinguo, c'est-à-dire des portes-avions qui n'ont pas de catapulte, avec des avions à décollage court ou vertical, qui ont moins d'allonge, c'est plutôt pour cette marine un peu de bastion. Voilà. Enfin, cette capacité de bastion, de tenir une position. Donc là, il y a peut-être un moment de bascule qui est en train de s'opérer par ce passage. Et quand on parle de porte-avions nucléaires à venir potentiels chez les Chinois, ça veut peut-être signifier que cette marine océanique est en train de bien se construire.
Mathieu Duchâtel, vous souhaitez intervenir ?
Alors, sur le sujet des porte-avions chinois et de leur doctrine d'emploi, il y a une vraie question qui se pose autour, effectivement, des opérations de soutien aux intérêts chinois à l'étranger, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu encore ce type de déploiement. Il faut voir aussi qu'au-delà du programme de porte-avions chinois, on a en cours aussi aujourd'hui un programme de porte-hélicoptères. Hein, on en a déjà 4 qui sont en service. On parle aussi de construction sur les prochains navires de cette classe de porte-hélicoptères, de catapultes électromagnétiques. Donc il y a une vraie question sur ce type de bateau, ce à quoi il va servir. Quand on ajoute à ça le fait que le corps de marine de la marine de l'Armée populaire de libération est en train aussi de changer de format, on commence à s'interroger sur le type de scénario que les dirigeants chinois ont en tête dans la construction de la marine. Tout indique qu'on n'est pas seulement dans le cadre des questions de souveraineté et des questions de sécurité maritime en Asie. Mais il y a un décalage entre l'idée, la réflexion stratégique, les choix d'équipement, les choix de format du corps d'infanterie de marine et ce que la Chine a démontré jusqu'à présent en termes de déploiement.
Alors, réaction ici aussi à ce que vient de dire Mathieu Duchâtel sur le format, changement de format, amiral de Saint-Germain.
Je crois qu'on se rejoint, c'est-à-dire qu'il y a une vraie question. En tout cas, il faut scruter de manière très précise les choix technologiques et les choix de format qui vont derrière pour voir effectivement ce que ça signifie de l'ambition chinoise d'un point de vue géopolitique sur le plan maritime. Donc moi, je rejoins complètement ce que dit Mathieu Duchâtel.
En tout cas, les Chinois œuvrent sur des bâtiments de taille absolument multiple. J'ai en tête les bateaux de pêche qui ont été utilisés par le gouvernement chinois pour aller titiller les petites îles voisines de la Chine continentale. Et puis, un rôle important octroyé aux garde-côtes chinois. Cyril Goutancet.
Oui, effectivement, il y a toute une stratégie qui est assez large, assez diverse, qui va des menaces hybrides ou des stratégies hybrides, comme on dit, en employant des pêcheurs, enfin, pêcheurs garde-côtes, etc., jusqu'à la marine en dur. Mais ce qui sera intéressant à voir, en fait, dans la stratégie chinoise, c'est aussi que la Chine, avec la mondialisation, s'est rendue de plus en plus dépendante aussi de l'extérieur. Donc, elle a des intérêts économiques, mais il y a aussi des ressortissants qui sont présents maintenant à l'extérieur, hein, en Afrique subsaharienne, pour exploiter des mines, des choses comme ça, ce qui peut nécessiter aussi une marine en capacité d'intervenir pour aller chercher ces ressortissants en cas de crise, etc. Donc le fait d'être de plus en plus ouvert à l'extérieur, ça implique d'avoir une marine aussi en capacité d'intervenir de plus en plus loin. Donc ça peut se lire aussi de cette manière-là.
Mathieu Duchâtel, vous souhaitez intervenir ?
Oui, c'est absolument fondamental dans les dynamiques de sécurité maritime en Asie. On l'a beaucoup vu en 2023 et on le voit presque tous les jours en ce début d'année 2024. Il y a d'abord, sur la question de Taïwan, un emploi vraiment nouveau ces dernières semaines du corps des gardes-côtes pour aller dans les eaux autour de Tinmen, donc cette île qui est à 5 km des côtes chinoises à proximité de Xiamen, sont administrés par la République de Chine, pour lesquels Taïwan n'a pas déclaré d'eau territoriale, donc pas de 12 000 nautiques autour de Tinmen, mais une zone interdite à la navigation donc en fait chinoise, qui jusqu'à présent a été respectée par la Chine. Mais depuis un incident récent qui a vu la mort de deux pêcheurs chinois dans ces eaux-là, les gardes-côtes chinois s'en approchent beaucoup, y pénètrent, et on voit des scènes où un bâtiment de gardes-côtes chinois de 10 000 tonnes s'approche de bâtiments de garde-côtes taïwanais qui, eux, font moins de 500 tonnes. Donc il y a là une pression très forte de la Chine, des garde-côtes chinois sur Taïwan, avec un modèle que la Chine a déjà éprouvé dans d'autres sujets maritimes, donc avec le Japon autour des QT Senkaku-Teru. Et puis il y a l'emploi de la milice, alors complètement différent. La milice, ça, c'est une vraie spécificité chinoise, même si les Vietnamiens ont un peu le même type d'opération. La milice, ce sont des bateaux de pêcheurs qui viennent jouer un rôle politique et qui opèrent dans des eaux qui sont disputées ou autour de territoires émergés qui sont disputés en mer de Chine du Sud. On a vu l'année dernière une augmentation de 35% de la présence de ces milices dans les questions territoriales en mer de Chine du Sud, avec parfois des opérations assez spectaculaires. Quand on voit 180 bâtiments de pêcheurs de la milice chinoise arrimés les uns aux autres qui entourent un territoire disputé avec les Philippines, on a des messages très forts. Donc les raisons pour lesquelles la Chine utilise la milice et les gardes-côtes, eh bien, c'est tout simplement pour être en deçà du seuil de l'affrontement militaire, mais c'est aussi pour signaler à son audience intérieure et à ses rivaux qu'elle administre ces territoires, qu'elle les considère comme des territoires souverains sur lesquels elle peut mener des opérations de police.
La question de territoire souverain. Alors, je pense au détroit de Taïwan où la liberté de circulation doit être maintenue. La France circule dans le détroit de Taïwan, ce qui ne réjouit pas toujours Pékin, amiral de Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on peut dire des défis pour la marine nationale française dans le contexte stratégique actuel ?
Le défi, c'est que nous sommes une marine qui est d'une taille relativement modeste. On est le résultat d'une marine, comme les forces armées d'une manière générale, de 30 ans finalement de pause stratégique, donc de dividendes de la paix, de réduction des budgets qui sont arrêtés en fait en 2017 à l'arrivée du président Macron au pouvoir, qui a décidé de remettre de l'argent et qui, on voit une forme d'accélération de ces rapports de force et donc des enjeux et donc des défis qui sont devant nous, sans parler automatiquement parler de la guerre, c'est-à-dire que sur les défis notamment en mer qui se représentent, parce que en parallèle du retour des forces navales en mer, on a aussi tout le contexte qui est ce qu'il est aujourd'hui au bout de 30 ans, de trafic illicite, et je pensais aux pêcheurs en vous écoutant. La pêche, il y a les pêcheurs qui agissent au profit du gouvernement chinois dans la zone dont on vient de parler, la mer de Chine méridionale. Il y a aussi toute cette pêche, c'est plus de 10 000, a priori, bateaux de pêche dans le monde chinois, qui font ce qu'on appelle, il y a des très bons articles très, très, très instruits, très, très, très bien documentés là-dessus, ce qu'on appelle les radias, la radia du calamar en mer dans le nord de l'océan Indien, la radia qui est en train de se en cours dans le golfe de Guinée, qui appauvrit de fait les pays riverains du golfe de Guinée, et tout ça sous couvert d'un droit de la mer qui empêche, réglemente un certain nombre de choses, mais est relativement permissif aussi. Donc il y a un enjeu qui va bien au-delà, c'est de continuer à gérer, à empêcher le développement de trafic, je dirais, illicite. On prend la pêche, mais il y a aussi le narcotrafic, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place depuis 30 ans. Plus ce retour en mer des forces navales qui se cherchent à, par d'un côté, la politique du fait accompli, et finalement, il ne faut pas oublier que c'est dès 2012 que la Chine, par les pêcheurs, vient prendre l'île de Scarborough au large des Philippines, en prenant de fait, en mettant des pêcheurs à terre, investis l'île de Scarborough. Donc, je vous disais en introduction, ça vient de loin. Oui, ces choses-là en mer viennent de loin. Et puis, et donc, toutes ces affaires aujourd'hui de réaffirmation beaucoup plus radicale de rapport de force, que ce soit dans la mer Rouge, avec les outils aujourd'hui, que ce soit dans le Golfe, parce que finalement le Golfe arabo-persique, lui aussi, est un lieu qui aujourd'hui pose beaucoup de questions. Affrontement Iran, pays arabes, France, États-Unis, enfin il n'y a pas d'affrontement en tant que tel, mais il y a des rapports de force. Donc on voit que progressivement, les mers et océans deviennent de plus en plus compliqués en fait, à contrôler, en tout cas à maintenir, à apaiser, avec des moyens qui, somme toute, ben, aujourd'hui sont le résultat des investissements des dernières décennies qu'on a fait.
Donc il y a une sorte de réveil hein, à entreprendre. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes en train d'entrer dans une ère nouvelle par rapport à toutes ces questions que nous venons d'aborder sur les océans et les mers, Cyril Coutançais ?
Oui, clairement, on est dans une ère géopolitique nouvelle. En fait, l'ère géopolitique de la mondialisation est derrière nous. Parce que finalement, c'était une ère géopolitique, la mondialisation, qui se caractérisait par une ultra-domination occidentale et plus que ça, américaine. On avait des États-Unis qui étaient de fait les gendarmes du monde. Et donc personne ne bougeait parce que les États-Unis étaient en capacité d'intervenir s'il y avait une contestation de l'ordre international. On l'avait vu avec Saddam Hussein quand il a envahi le Koweït en 91. Les États-Unis sont intervenus en coalition. C'est cette période-là qui est terminée. Et c'est ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est qu'elle est terminée aussi en partie grâce à la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, elle a favorisé l'enrichissement, le développement de tout un certain nombre d'États dans le monde, notamment asiatiques, notamment la Chine. Et la Chine, à partir de ce moment-là, puis d'autres pays, ont pu se lancer dans une politique de réarmement, de développement de marine. Et aujourd'hui, on est dans une situation, parce que dans le domaine des forces navales, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est une affaire quand même de pays riches. C'est-à-dire que pour investir dans une marine, il faut quand même être un pays développé. Et ce qui est assez nouveau quand même et assez singulier, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, alors que les marines étaient globalement une affaire de pays occidentaux jusqu'à présent, on a aujourd'hui des grands acteurs, type la Chine, qui ne sont plus occidentaux. Et ça change quand même beaucoup le rapport de force. Et c'est ce qui ouvre cette page géopolitique nouvelle, justement. On ne sait pas bien où elle ira, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une page qui est terminée.
Merci Cyril Coutançais. Je rappelle que vous êtes directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine. Merci aussi à vous, amiral Marc-Antoine de Saint-Germain, en charge de la transformation numérique de la Marine et ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle. Et merci aussi à Mathieu Duchâtel, qui était avec nous depuis Taipei, la capitale de Taïwan, directeur des études internationales de l'Institut Montaigne et spécialiste de la sécurité économique et des questions stratégiques en Asie. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.